Donc, Laurent Cordival et Fabien Thureau vont nous présenter les impacts de la cloudification sur la surveillance opérationnelle. C'est à vous.
Merci beaucoup, Benoît. Et merci à tous pour votre présence. Je ne sais pas si on m'entend bien quand je suis debout. C'est bon? Merci. Ça nous fait très plaisir, Fabien et moi, d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter notre retour d'expérience. On fait partie du cabinet Béjaflor et on aujourd'hui 200 consultants en cyber, risque et sécurité. On travaille à la fois sur les sujets de cyberdéfense et également de cyberoffense. Nous, on est plutôt sur la branche cyberdéfense. Donc, on conseille un certain nombre de clients sur les SOC, la mise en place des processus de gestion d'incidents. Et on souhaitait de manière très simple vous présenter aujourd'hui les projets et les difficultés que l'on rencontre chez nos clients par rapport à l'intégration des périmètres cloud dans leur stratégie de cyberdéfense. Donc, l'étude qu'on a publiée sur le sujet sur le site des Journées du César. Déjà, on a rappelé la définition de qu'est-ce qu'on appelait cloud, puisque c'est aujourd'hui, on peut tout mettre dedans. Ensuite, on a rappelé les différents contextes et les difficultés qui sont remontées par nos clients sur ces projets de déploiement de SOC. Et finalement, quelle approche, qu'est-ce qu'on peut apporter comme conseil auprès des responsables sécurité, auprès des responsables de CISR, de SOC, dans leur stratégie de défense, de détection et de réaction. Et puis on terminera sur un aspect un peu plus prospectif sur l'évolution du secteur, notamment l'appréhension des problématiques de multi-cloud chez nos clients, puisqu'en général, on n'est pas utilisateur d'un seul service de cloud, mais de plusieurs, et les évolutions par rapport aux stratégies de cyberdéfense. Donc, tout d'abord, quelques notions sur le cloud. Avant, je vais faire juste une introduction un peu plus simple, un peu plus concrète, hein, parce que j'aime bien les choses assez concrètes lorsque je travaille chez mes clients. Le métier d'un responsable de SOC, c'est finalement de traiter des informations qui sont aujourd'hui sur son système d'information, qu'on appelle les logs, de les faire remonter dans une infrastructure de collecte, d'analyse, de l'enrichir avec de l'information externe, des IOC, des stratégies d'attaque, des TTP, et de là d'en tirer, identifier des alertes, les qualifier et traiter les incidents éventuellement par le biais d'équipes de réponse à incidents. C'est des sujets qui sont en très fort développement, pardon. Évidemment, puisque on est victime tous les jours, enfin les entreprises sont victimes tous les jours de cyberattaques et le sujet de cyberdéfense ne peut plus être aujourd'hui oublié, que ce soit des responsables de SOC, des responsables de sécurité et même des dirigeants d'entreprise. Donc on s'est bien rendu compte aujourd'hui, depuis 3-4 ans, une multiplication de ces projets avec des investissements très lourds chez nos clients. Ces projets aujourd'hui rencontrent finalement une nouvelle difficulté depuis 18-24 mois, qui est l'émergence des services de cloud. Pourquoi? Parce que la transformation digitale est passée par là. Vous le savez, vous le vivez aujourd'hui dans vos organisations. Le cloud, c'est d'abord des bénéfices, hein. L'objectif de cette présentation, ce n'est pas de dire attention, le cloud, c'est difficile à contrôler, on va l'oublier. Non. Le cloud a clairement des avantages d'agilité, de capacité de mettre à disposition des services de manière très réactive, d'effet d'échelle, d'optimisation des coûts, évidemment. Et même en termes de confiance, évidemment, il y a un enjeu de confiance sur la donnée, sur la protection des données qui sont hébergées sur ces infrastructures. Mais également, c'est aussi des bénéfices pour les équipes sécurité, puisqu'on va le voir par la suite, hein, on va le détailler un peu plus tard. Il y a des gains d'efficacité en termes de réaction, en termes de segmentation des réseaux qui ne sont pas à négliger. Alors, je ne vais pas vous faire la définition des différents modèles d'externalisation. Voilà, il y en a plusieurs, il y a du plus ou moins public, plus ou moins privé. Simplement, nous, dans le cadre de l'étude, ce qui nous intéressait, c'est d'être dans un modèle plutôt de cloud public, parce que, évidemment, le cloud privé amène des risques et des solutions qui peuvent être un peu spécifiques, mais on part du principe que finalement, l'enjeu pour les responsables de SOC, c'est d'adresser les problématiques de cloud public dans leurs environnements. En essayant d'être... on est plutôt parti sur des sujets d'infrastructure ou de plateforme. Donc, plateforme, c'est de la mise à disposition de logiciels chez les clients, mais qui sont mutualisés. Mais on traite également la partie SaaS dans l'étude. Donc concrètement, quelles sont les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui sur les projets de SOC chez nos clients par rapport à ce cloud ? La première réponse, elle est finalement toute bête, c'est en général lorsqu'il y a un premier incident, lorsqu'on nous appelle par rapport à ça, c'est de se rendre compte que bah, finalement l'organisation de la réponse, c'est-à-dire ne serait-ce que la connaissance des acteurs chez les différents fournisseurs de services, elle est mal maîtrisée, en tout cas elle est mal maîtrisée avant que les premiers incidents n'arrivent. On va facilement contractualiser un contrat de SaaS, de IaaS, de PaaS. On va au mieux, pour les organisations les plus matures, penser à faire un plan d'assurance sécurité. Mais on oublie souvent de connaître, d'avoir le contact de l'équipe CISERT qui est en face, d'avoir savoir si on est en capacité d'externaliser les logs. Toutes ces petites clauses qui font que lorsqu'on doit faire une investigation, lorsqu'on doit traiter un incident, on se retrouve en difficulté. La deuxième difficulté, donc, qui est donc moins organisationnelle, qui est plus technologique, c'est la stratégie de détection. Par nature, à partir du moment où vous faites cette externalisation d'une partie de votre système d'information chez un fournisseur, vous acceptez que toute ou partie de l'architecture du système d'information qui est en face de vous, vous ne la maîtrisiez pas et vous ne la connaissiez pas. On va en parler tout à l'heure, mais il y a un sujet de cartographie qui est forcément... proéminent dans cette réponse. Or, une bonne détection passe une maîtrise de la cartographie du ICI que l'on souhaite protéger. C'est également sur la partie scénario de détection, hein, sur des exemples très concrets, des composants technologiques nouveaux sur lesquels il faut focaliser un peu plus la maîtrise des risques. Pourquoi ? Parce que vous allez être sur des services, je pense notamment à Amazon, on a des buckets S3 où vous savez que les données de votre entreprise vont être stockées, donc pour un attaquant, c'est également une cible privilégiée à attaquer. Donc il y a une stratégie de détection, un renforcement de la protection de ces services qui va devoir être revu. Nouvelle menace, on l'a dit, on est sur des infrastructures mutualisées, donc vous ne maîtrisez pas forcément les clients qui mutualisent, vous ne savez pas forcément les accès qu'ils ont, vous n'avez pas la maîtrise non plus des fournisseurs de votre fournisseur. Hein, on va plus parler de third party, mais de fourth party. Donc, c'est important d'avoir aussi des contrôles par rapport à ça. Et puis, technologiquement, une augmentation de la surface d'attaque, vous allez être sur des nouvelles technologies, donc vous avez un risque de vulnérabilité nouvelle, notamment sur les couches d'hyperviseurs, de segmentation réseau qui évoluent. Donc, voilà, j'ai brossé le portrait. Maintenant, on va voir comment on peut répondre de manière pragmatique par rapport à ces risques. Je passe la parole à Fabien.
Merci, Laurent. Alors, du coup, dans un premier temps, pour répondre à l'ensemble des problématiques qui ont été citées précédemment par Laurent, il nous a semblé nécessaire de définir des politiques pour cadrer, dans un premier temps, les usages, donc dire ce qu'on a le droit ou ce qu'on n'a pas le droit de déployer ou d'externaliser dans le cloud, et dans un deuxième temps, surtout, de définir comment choisir, en tout cas, quelles sont les obligations technico-fonctionnelles auxquelles notre fournisseur de services devra se conformer pour assurer un niveau de sécurité optimal. Donc sur le premier point, l'idée c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est d'identifier ce qu'on a le droit ou ce dont on n'a pas le droit d'externaliser au niveau de son système d'information. Donc typiquement, ça va être de dire, au travers de la classification de ces données, de dire qu'au-delà d'un certain niveau de criticité ou de sensibilité, on interdit effectivement l'externalisation, en tout cas le déploiement dans un cloud, qu'il soit de confiance ou non. Au-delà de ça, on va définir aussi l'ensemble des mesures, des process à mettre en place pour faciliter le suivi, pour identifier les risques, les scénarios redoutés, ce qui dans notre cas va nous faciliter ou en tout cas nous permettre de définir la stratégie de détection. Donc en utilisant typiquement les analyses de risque qui sortiront de l'intégration de la sécurité dans les projets qui seront faits en amont, si c'est bien fait, de tout projet justement qui sera mené, ou en tout cas qui sera voué à aller dans le cloud. Et sur la deuxième partie, pour le coup, c'est vraiment de dire ce à quoi le CSP devra se conformer. Donc ça, dans un premier temps, de se poser ces questions, ça permet de savoir sur quoi est-ce qu'on va challenger son cloud service provider, de le challenger, donc de ne pas forcément le mettre dans un état de confiance, et surtout de s'assurer effectivement que sa maturité d'un point de vue sécurité réponde à vos besoins, et de vous rassurer de votre côté, de rassurer vos clients. Au-delà de ça aussi, sur le papier c'est bien, mais il faut se donner des capacités de s'assurer que ce qui a été marqué contractuellement répond bien en tout cas à l'ensemble des exigences. Donc n'oubliez pas surtout toutes les clauses pour vous permettre d'auditer ou en tout cas de regarder si ce qui a été dit a bien été implémenté. Au-delà de la partie vraiment encadrage, gouvernance, là on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet sur la partie terrain. Pour nous, il y a deux grandes approches qui sont opposées. Après on peut faire des mix des deux bien sûr. La première approche, c'est une approche qui est vraiment conventionnelle, normalement que vous avez déjà pu voir sur vos environnements on-premise. Donc l'idée c'est de s'appuyer sur des agents de collecte, sur des scripts de récupération de données, voire sur la configuration de vos équipements, notamment tout ce qui est les équipements réseau, et au travers de ces déploiements, de ces configurations, de récupérer de la donnée pour pouvoir travailler, pour pouvoir définir votre stratégie de détection au travers des scénarios redoutés, des risques redoutés, pour mettre en avant des attaques, des anomalies, et derrière faire l'analyse, la réponse à incident et potentiellement un retour à l'état initial en fonction de ce qui est nécessaire. Ça, vous le connaissez, ça répond typiquement à des déploiements cloud moins complexes pour le coup. Donc typiquement, ce sera plutôt pour du IaaS, du PaaS. Dès lors qu'on commence à atteindre des niveaux de complexité un petit peu plus hauts, dès lors qu'on va aussi avoir du SaaS sur le périmètre, il va falloir envisager une nouvelle approche. Donc la nouvelle approche, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le détail sur le deuxième slide. Donc sur cette deuxième approche, alors en 20 minutes, on ne peut pas rentrer forcément dans le détail de toutes les technologies. Là, on a essayé de vous donner juste des billes pour répondre à un besoin de sécurité, justement sur des environnements un peu plus complexes. Donc notamment sur la partie maîtrise du scope, l'idée c'est d'avoir une idée, enfin de maîtriser son scope, donc avoir une pleine connaissance des technologies, des processus sur l'environnement cloud. Donc pour le coup, dû aux difficultés ou en tout cas aux nouveautés sur les environnements cloud, donc de déploiement à la volée, de containerisation, de déploiement grâce aux infrastructures as a code, il y a des difficultés par rapport à ça. Si vous utilisez des approches conventionnelles, pour le coup, vous allez vous heurter à un mur ou à des limites. Donc si vous souhaitez profiter des services et des fonctionnalités du cloud, on a listé quelques solutions chez AWS et Azure, ça ne se veut pas forcément exhaustif. Chacune des solutions ou des services a leurs forces et faiblesses, elles ont des limites, il faut les connaître, il faut les choisir en fonction de votre besoin. Donc je vous laisse regarder au niveau des slides, je ne vais pas les lister. Donc ça répond sur la partie maîtrise du scope. Au niveau de la traçabilité, donc pour effectivement faire de la détection de la réponse à incident, on a besoin d'informations. Au-delà de l'utilisation d'agents, de configurations et autres, dans les environnements cloud publics, on peut s'appuyer sur des services qui vont vous donner accès à de l'information en plus de votre environnement, notamment sur les usages des différentes API qui vous permettent d'interconnecter l'ensemble des entités, sur les réseaux virtuels, que ce soit au niveau des communications, quelle entité parle avec quelle entité, ou même au niveau très en rentrant dans le détail, se donner la capacité d'aller voir cette communication, finalement, c'était quoi derrière. Donc pour ça, vous avez côté AWS, CloudTrail, donc c'est toute la notion de remontée d'événements sur les API. CloudWatch, c'est un service typiquement qui est plutôt orienté surveillance IT pure, mais qui peut être réutilisé pour toute la surveillance sécurité. Et Flux VPC, donc c'est un service de virtualisation des réseaux. Il vous donne accès justement à des informations sur ces réseaux en fonction du niveau de détail que vous cherchez à avoir. au niveau surveillance et analyse. Donc une fois qu'on a les données, soit on peut choisir effectivement de définir sa politique de détection et de réponse, enfin de détection, donc au travers de use case, soit on peut se dire bah, pourquoi pas utiliser typiquement les services offerts par les CSP. Donc chez Azure, on aura Azure Security Center et chez Amazon, c'est Guard Duty. Donc pour le coup, ces services vont utiliser l'ensemble des entrées ou des éléments qui sont mis à disposition sur l'environnement cloud. Donc ça va être typiquement des événements de vos VM, des environnements, des données réseau, des activités sur les usages des différents services, des activations des configurations, ce genre de choses. Donc vous pouvez vous appuyer là-dessus, il y a une base de connaissances qui est vraiment contextualisée pour le cloud. Vous pouvez améliorer cette base de connaissances en fonction de vos besoins et de vos usages pour arriver à un niveau de maturité quand même au-dessus. Donc ça, sur toute la partie un petit peu plus détection, remontée d'alerte. Et pour finir, sur ce slide-là, donc c'est toute la partie réponse à incident. Donc une fois qu'on a identifié une anomalie, un problème ou un incident, il faut bel et bien répondre. Dans le cloud, l'ensemble des environnements sont virtualisés, que ce soit au niveau des systèmes, des réseaux ou autres. Donc par rapport à ça, il y a quand même une certaine agilité ou une facilité en utilisant justement les services proposés par les CSP. On va être en capacité de confiner ou en tout cas de réduire l'impact en cas d'incident grâce à des fonctionnalités réseau, typiquement NSG, donc c'est Network Security Group, qui vous permettent d'appliquer des politiques de contrôle de flux, ou en tout cas pour cloisonner un environnement, soit un ensemble d'environnements, on va dire, ou utiliser les services qui sont proposés de gestion d'identité pour clôturer les accès d'un compte qui a été identifié comme compromis. Il y a plein de choses qui sont possibles. Il ne faut pas hésiter à s'en servir parce que typiquement ça permettra d'arriver à un niveau de maturité quand même supérieur à ce qu'on aurait l'habitude de voir sur du on-premise. Pour finir sur ce slide, le dernier point c'est toute la partie remédiation. Donc c'est des choses qu'on voit déjà sur on-premise, donc snapshot, récupérer en tout cas des sauvegardes ou des sauvegardes effectivement des éléments à un instant donné. Une fois qu'il y a eu compromission, bon, on est en capacité de relancer la VM comme elle était à l'époque. Après, il faut bien entendu s'assurer que cette dernière n'est pas compromise s'assurer de sa propreté entre guillemets. Et on n'a pas beaucoup trop de temps. Je vais passer la parole à Laurent.
Merci. Donc vous l'avez vu, il y a des solutions qui existent, il y a des opportunités sur les services, on en a parlé, sur la partie remédiation, c'est notamment, comme l'a dit Fabien, c'est une réelle opportunité pour la communauté d'utiliser cette capacité de snapshot pour restaurer des systèmes rapidement, et ça va changer finalement les stratégies de défense dans les organisations. Vous l'avez vu par contre dans le slide précédent, et c'est ça le message qu'on veut aussi partager, c'est qu'aujourd'hui, on est très dépendant des technologies. Donc on a beaucoup cité AWS et Azure. Ça peut être, il y a d'autres offreurs. Il y en a aussi en France, notamment OVH, qui apportent des solutions, qui aussi apportent plus de facilité sur des projets réglementaires en termes pour avancer sur des problématiques de labellisation. Néanmoins, on reste assez spécifique par rapport aux offreurs par rapport aux fournisseurs. Donc, il y a une problématique d'interopérabilité, de fonctionnement et de connaissance de ces environnements. Donc, évidemment, les deux premiers points, l'interopérabilité entre les environnements, l'orchestration, on est plutôt sur des problématiques techniques, technologiques, outils. Moi, ce que j'ai aussi envie de vous partager, c'est la problématique expertise, formation. Aujourd'hui, chez nous, dans les CISER, dans les SOC, on a des gens extrêmement pointus qui sont formés pour faire du forensic, de l'investigation, pour faire de la recherche de malware, qui ont une bonne maîtrise des solutions cloud en général, mais qui ne sont pas non plus les architectes des solutions dans les projets de mise en œuvre des différents services de cloud. Donc il y a une nécessité de faire cohabiter ces deux équipes à terme pour que les équipes CISER, donc qui font la partie réponse à incident, soient vraiment très, très proches et très opérationnelles dans leur capacité à répondre lorsqu'il y a un incident avec ce qui a été mis en place par les architectes sur la partie cloud. Et compétences sur les différents environnements de l'entreprise, puisque le fonctionnement va être différent par rapport au fournisseur que vous avez choisi. Et j'avais presque envie de dire, même concrètement, c'est pratiquement à chaque client. Parce que souvent, on me pose la question, mais du coup, est-ce que je peux récupérer les logs sur mon serveur Exchange qui est dans le cloud ? Oui, mais quel est votre contrat, quoi ? Est-ce que c'est le Exchange qui est sur Azure en mode offre publique ? Est-ce que c'est une solution privée que vous avez pris ? On se rend compte qu'il y a une multitude de contrats par rapport aux différents offreurs et qui demandent du coup une connaissance, une maîtrise de l'information et un partage de ces informations à vos équipes cyberdéfense qui est très importante. Donc ça, c'est un challenge qui va venir maintenant pour avoir une réponse étendue à l'ensemble des services. En conclusion, parce que je dois arriver dans les temps, je vais être assez synthétique. Vous l'avez compris, il y a un changement, vous le savez déjà, vous le vivez déjà, hein, donc ce changement par rapport à l'émergence du cloud. Moi, le retour que j'ai à vous faire là-dessus, je ne vais pas être forcément pessimiste, je pense que c'est plutôt une opportunité d'évolution des services. On voit qu'il y a des nouveaux services à utiliser, de la réactivité, la capacité aussi à gagner du temps en termes de réponse, parce qu'aujourd'hui, sur les solutions actuelles, ça demande du temps lorsqu'on traite des incidents, hein, c'est les statistiques, on met 180 jours en moyenne pour détecter une attaque. Donc on doit pouvoir faire des gains en termes de communauté. Et finalement, on avait la même problématique technologique il y a 10 ans, lorsqu'on voulait intégrer un nouveau firewall. Les parseurs de logs n'étaient pas forcément disponibles. Donc on avait les logs n'étaient pas standardisés, donc on mettait beaucoup de temps. Je ne dis pas que les logs sont encore très standardisés, mais ça s'est quand même amélioré sur les 10 dernières années. On est aussi porté par une évolution réglementaire. Hein, ça pousse les projets de cyberdéfense, de SOC et de labellisation. Il y a le SecNum Cloud qui est prôné par l'ANSSI et qui fait avancer le sujet. On doit aller encore un peu plus loin, je pense, sur la partie standardisation pour avoir des offres de services qui sont similaires chez les différents offreurs. Mais finalement, ça sera, je le pense, c'est aujourd'hui ce qu'on voit par rapport aux différents projets qui commencent à arriver. Hein, je pense à Backstory, à aussi l'investissement que peut faire Microsoft sur le sujet. C'est un élément clé de différenciation pour les cloud service providers. Donc ça va évidemment être un bénéfice à terme pour nous en termes de réponse à incidents. En tout dernier point, un petit conseil à vous partager, c'est... ne pensez pas non plus uniquement stratégie de défense, pensez à l'intégrer dans votre politique de sécurité, dans le fonctionnement de vos processus de sécurité. Je pense notamment à l'analyse de risque. Nous, ce qu'on voit de plus en plus, c'est finalement une cohabitation, je pense en particulier par exemple avec EBIOS-CRM, la méthodologie d'analyse de risque EBIOS Risk Manager. Finalement, la réalisation de ce type d'analyse de risque permet d'identifier facilement les scénarios de risque et finalement de répondre plus facilement dans la stratégie de défense avec les contrôles nécessaires pour éviter au plus les attaques et répondre le plus efficacement possible si elles ont lieu. Voilà, je vous remercie et je peux répondre à vos questions.
Merci Laurent et Fabien. Donc la parole est à la salle pour quelques questions. Oui, allez-y là.
Vas-y Eric. Et merci pour la présentation. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce que vous appelez par une adaptation des CSP nécessaires ? Parce que vous avez évoqué des petits CSP comme Azure et AWS. Ils vont faire des évolutions, lesquelles pour vous faire plaisir, pour nous faire plaisir ? Je suis un peu dubitatif pour le traduire autrement.
Merci Eric pour cette question. Évidemment, on est tous confrontés sur les sujets d'externalisation à un effet de taille. Hein. Donc, et c'est pas d'ailleurs que le cas pour la partie détection et réponse. Hein. C'est la même chose sur les droits d'audit. Enfin, c'était pareil il y a 10 ans, on a eu cette problématique-là. Donc, le marché, la conclusion était de partager le fait qu'il y a clairement une sensibilisation et une évolution par rapport à. En tout cas la prise en compte de la sécurité par rapport aux offreurs. Ils ne vont pas faire une solution adéquate et immédiate par rapport aux clients. Néanmoins, il y a aussi un partage avec les MSSP, c'est-à-dire qu'on est presque sur un triptyque aujourd'hui sur la partie cyberdéfense, c'est-à-dire qu'on a le client final dont on a beaucoup parlé, l'offreur de solutions CSP, mais on a également l'offreur de services de détection. Et on le voit dans l'évolution, c'est aussi ces acteurs-là qui permettent l'évolution. C'est-à-dire qu'il y a des partenariats entre les fournisseurs de services qui sont un peu plus gros parce qu'ils mutualisent finalement des moyens pour différents clients qui peuvent négocier une facilité d'accès au log sur un service Azure ou ce type de choses. Voilà, je pensais à ça en termes d'évolution.
On a le temps. En bas à droite, vue de la scène, sur la droite. Voilà.
Bonjour. Moi, j'avais une question sur l'infrastructure as a service, donc l'infrastructure en code. Et en fait, si vous avez eu une attaque et que donc quelqu'un a trouvé un chemin pour entrer dans le système, si on remet exactement le même système, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Et comment vous vous adressez à ce point-là?
Alors, typiquement, c'est vrai que, on aura toujours le problème, que ce soit l'infrastructure as a code, que ce soit des snapshots, dès lors que la source est compromise. Il faut trouver un moyen, ou en tout cas un état initial antérieur qui va vous permettre de retourner à l'état initial, ou en tout cas un fonctionnement opérationnel du service, de l'application ou autre. Donc la problématique, c'est surtout d'identifier jusqu'où va la compromission, une fois que vous avez identifié le problème, de trouver un moyen pour aller au-delà de la compromission pour justement résoudre le problème. Donc si l'ensemble de votre code est compromis, si l'ensemble de vos backups sont compromis, typiquement, ça va être compliqué de faire un retour à état normal. Donc le but, effectivement, c'est si on a réussi à compromettre vos backups, c'est peut-être qu'il y a un problème, on va dire, en parallèle. Maintenant, si ça arrive, ça peut arriver, il va falloir trouver une réponse par rapport à ça.
Je pense qu'aussi, c'est aussi par rapport à la gravité de l'incident. Hein. Évidemment, si vous êtes sur une compromission complète de votre SI, vous n'allez pas, il n'y a pas de solution miracle. On va repartir sur quelque chose de reconstruction from scratch du SI. C'est des projets qui vont prendre 6 mois, 1 an, qui vont coûter un certain coût à votre organisation. L'intérêt de l'infrastructure as code va être aussi sur des tout petits incidents. Finalement, on peut imaginer que sur j'ai une workstation qui a une infection, j'ai un poste de travail qui est infecté, où je n'ai pas forcément en première qualification un risque fort de compromission du SI. Plutôt que de repenser complètement, enfin de faire une analyse, de la collecte de traces, une investigation complémentaire, je relance la restructuration de mon système. Je vais gagner du temps et je vais gagner de l'efficacité. Les équipes SOC aujourd'hui sont très 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 prises. On a des problématiques aussi de concurrence entre les attaques. J'ai un DDoS, j'ai en même temps un malware. Est-ce que les deux sont liés? Est-ce que finalement c'est des cas est-ce que c'est le hasard? Quand on est dans une équipe 6 heures, on n'a pas forcément cette réponse-là. Donc tout ce qu'on peut gagner en termes d'automatisation, là c'est pas forcément le but de ce papier, mais tout ce qu'on peut gagner en termes d'optimisation est très utile pour les équipes.
Là, on va devoir conclure cet exposé là pour respecter le timing. Donc, je vous invite là pour les questions là qui se posent sur votre intervention là de vous rapprocher des orateurs. Bien, merci donc Laurent et Fabien.
Merci à vous.
Merci à vous.